Voici l'interview de Matin Première. Bertrand, vous recevez aujourd'hui Marie-Martine Schins, CDH, ministre de l'Éducation, Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est à vous.
Bonjour Marie-Martine Schins. Acta, fabula est, la pièce est jouée, le pacte d'excellence est là, c'est la version finale donc d'un texte qui est censé bouleverser l'enseignement chez nous. Il a été préparé, on va le rappeler, par les acteurs de l'école, les directeurs, les syndicats, les représentations évidemment de ces acteurs, des associations de parents aussi. Et maintenant c'est aux politiques de le traduire en acte à vous. Alors, on en a déjà évoqué certains aspects, le latin pour tous, les techniques pour tous, le tronc commun jusqu'à 15 ans, les vacances plus courtes en été, la formation des profs rallongée. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce pacte, ça va être difficile de tout faire ce matin, on n'y arrivera pas. Mais ce qu'on va faire avec vous, c'est tenter de comprendre ce qui est pour vous indispensable. D'abord, soyons concrets. Commençons par ce qui va peut-être toucher le plus directement les parents et les enfants, même si c'est peut-être pas la mesure la plus importante. Ce sont les rythmes scolaires. Dans quelques années, est-ce que vous nous confirmez qu'on va passer à des vacances de Toussaint et des vacances de carnaval de 2 semaines et des vacances d'été plus courtes?
Alors, je vais bien sûr répondre à votre question, mais avant toute chose, je profite de cette antenne pour remercier tous les acteurs du pacte qui, depuis 2 ans, ont travaillé ensemble pour arriver à quelque chose qui est inédit. C'est ce consensus des acteurs, vous les avez cités, les réseaux, les pouvoirs organisateurs, les syndicats, les associations de parents. Ces acteurs, aujourd'hui, vont présenter cet avis, cet avis numéro 3 qui est le dernier, mais ils vont aussi retourner vers leurs instances, retourner consulter leur base. Et ça, ça fait aussi partie du processus en ce qui me concerne.
Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être encore des changements. Enfin, on verra. Mais en tout cas, normalement, il y a déjà un texte.
Il y a un
texte. Des représentants de toutes ces associations.
Il y a une vraie feuille de route. Et ça, pour ce travail de grande, grande qualité, je voudrais vraiment les remercier ici. Alors, par rapport au congé scolaire, bien sûr, il y a eu sur la table, au mois de mai, la piste des rythmes scolaires à revoir sur la journée.
Ouais. On parlait d'école jusqu'à 17h.
Enfin, voilà, il y a eu pas mal de raccourcis. Il y a eu aussi une précision claire du groupe central, donc des acteurs du pacte. Toute réforme des rythmes scolaires a un impact important sur la vie des familles. Et c'est pour cette raison qu'ils ont précisé qu'il était nécessaire d'avoir une étude de faisabilité approfondie de ce type de changement.
Donc pas tout de suite.
Alors, pas tout de suite et avec une étude de faisabilité. Mais par contre, c'est clair que si dans l'avis numéro 3, on parle beaucoup moins de la piste de la journée, la piste de revoir les rythmes scolaires sur l'année est beaucoup plus évoquée. Et il y a plusieurs raisons à ça. On sait très bien, des études l'ont montré, que pendant les vacances d'été, qui sont relativement longues, les enfants perdent certains apprentissages. On sait aussi qu'à d'autres moments de l'année, et regardez nos enfants aujourd'hui par exemple, ils sont beaucoup plus fatigués. Donc leur rythme biologique serait beaucoup plus adapté à un rythme scolaire, 6-7 semaines d'apprentissage et puis 2 semaines de congé. Deux semaines de repos réelles. Une semaine est apparemment largement insuffisante pour récupérer.
Ça, c'est un peu l'étoile polaire sur les rythmes scolaires. Il faudrait tendre à ça en communauté française. 7 semaines, 2 semaines de congé.
Personnellement, et j'ai travaillé beaucoup cette question quand j'étais parlementaire et j'ai beaucoup consulté le terrain aussi, je pense que ce serait une solution intéressante. Mais on ne peut pas non plus prendre cette mesure des rythmes scolaires et l'isoler. Elle doit avoir un lien avec la manière dont on organise les apprentissages. Par séquences qui ont un lien avec, par exemple, les 6 semaines, avec des moments de remédiation, avec des moments d'évaluation qui viennent à la fin de chaque séquence et pas forcément qui arrivent à Noël au milieu de l'année, simplement parce que c'est Noël, mais sans que ça ait pédagogiquement un sens. Donc je pense que cette question est sur la table, elle sera réfléchie. Et pourquoi est-ce qu'il faut une étude de faisabilité? Parce que ça a un impact sur d'autres acteurs et notamment les secteurs, je pense, des mouvements de jeunesse qui organisent des camps.
Bien sûr, le tout le monde s'est calqué sur les vacances scolaires si elle change à
des être attentif
conséquences
à ça.
Majeures. Alors, autre mesure, ça c'est peut-être la plus centrale du pacte d'excellence, c'est le tronc commun qui sera plus long. Alors c'est pas une surprise parce que depuis maintenant 6 mois, on sait que c'est vraiment dans le tube. Jusqu'à 15 ans, est-ce qu'on exagère en disant que finalement on va vers un système quasiment à la française avec le lycée puis le collège, avec des écoles très différentes. À partir du moment où on a 15 ans, on passe dans une sorte de nouvelle structure, c'est ça qui va se passer?
Ce qui est écrit par les acteurs du pacte, c'est qu'il y a une volonté d'abord de renforcer le tronc commun. Donc le renforcer et l'ouvrir. Aujourd'hui, on a un tronc commun qui est très logico-verbal.
Alors ça, il faut expliquer ce que c'est, parce que c'est du vocabulaire d'enseignant que vous êtes avant d'être
finiste. Eh bien, on a beaucoup de français, beaucoup de mathématiques, et c'est important. Et les savoirs de base, on veut les revaloriser. Mais il n'y a pas suffisamment d'ouverture aux intelligences multiples, à la polytechnie, à l'artistique, aux sportifs. Et ça, c'est la volonté des acteurs du pacte de commettre davantage de polytechniques d'artistique en primaire, mais aussi au début du secondaire. Donc, dans ce qu'on appelle le tronc commun. Donc, d'abord le renforcer.
Donc, on va faire différemment à l'intérieur de ce tronc commun. C'est d'abord ça qu'il faut dire. Voilà, au-delà de qu'il soit un an plus long.
Pour moi, la priorité, c'est d'abord de le changer. Et d'ailleurs, ce qui est précisé, c'est que ça va se faire de manière évolutive et qu'on va démarrer ce changement avec une cohorte d'élèves entre 3 et 8 ans. Et puis que ce sont seulement ces élèves qui vont progressivement monter et voir et vivre ce tronc commun quand il sera rallongé. Et pour rassurer les enseignants, parce que je suis régulièrement en contact dans les écoles, ils sont inquiets parce qu'ils se disent que ce sont les élèves qui aujourd'hui sont en deuxième, qu'ils vont devoir garder une année de plus alors que ces élèves ont peut-être, c'est vrai, déjà des projets d'orientation dans une filière. L'objectif, c'est d'avoir un tronc commun qui est modifié, renforcé, qui est aussi progressivement orientant, où on découvre des métiers et des filières bien avant la deuxième année du secondaire pour justement pouvoir opérer un choix qui n'est pas un choix par défaut, qui n'est pas un choix lié à une attestation B, comme on les appelle, autrement dit une attestation restrictive qui ne permet pas d'aller dans toutes les filières. On a l'attestation du tronc commun et puis on choisit.
Et là, on choisit. Et ça, c'est la nouvelle, c'est encore une nouveauté, évidemment à réaliser. Mais enfin, ce que prévoit le pacte, c'est qu'on n'a plus que deux grands choix. Soit on reste dans ce qu'on a, on va plus appeler le salle général. Enfin, la transition.
La transition vers les études.
Ou alors le qualifiant.
Oui. Deux filières, deux possibilités qui en même temps se recoupent et vous allez comprendre. La première, la filière de transition qui mène aux études supérieures. La deuxième, une filière de qualification, filière qualifiante qui mène à un métier.
Oui, qui est issu de la fusion de ce qu'on connaît aujourd'hui du professionnel et du technique, soyons clairs, c'est ça.
Alors, on ne peut pas vraiment parler de fusion, ce serait une nouvelle filière qui va être créée, sur base des profils métiers. Bien entendu, quelqu'un qui sort de cette filière peut toujours faire une année complémentaire qui est une passerelle pour aller vers des études supérieures. Donc, ça, c'est le modèle. Ce modèle doit être construit, bien entendu, sur base de ce qui est praticable sur le terrain, puisqu'on a aujourd'hui une situation existante, et c'est un modèle qui va se construire progressivement. Il existe déjà aujourd'hui en partie, à travers quelque chose peut-être d'un peu technique, mais qui est la CPU, la certification par unité, où on définit des profils métiers en 5e, 6e, et où l'élève travaille en fonction du métier et pas en fonction de qualification ou professionnelle.
Alors, est-ce que ce pacte a vraiment pris la mesure de ce qui est considéré par beaucoup d'enseignants comme le problème majeur de notre enseignement? C'est le problème que le philosophe Vincent de Corbitaire a appelé la pédagogie du renoncement. Je cite ce qu'il voulait dire par là, c'est le passage d'une pédagogie centrée sur les connaissances, qui était celle qui était en cours jusque dans les années 90, à une pédagogie centrée sur les compétences. Pour bon nombre d'enseignements, dit-il, ces pédagogies par compétences fonctionnent mal, elles diluent les savoirs, elles empêchent l'acquisition de bases rigoureuses et solides. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le pacte va changer ça?
Le pacte est très clair sur les savoirs. Il dit vraiment qu'il faut les remobiliser. Donc savoir quel savoir on mobilise derrière la compétence à atteindre. Alors, ce ne sont pas des choses opposées. Les savoirs et les compétences sont complémentaires. Donc le renforcement des savoirs de base, le fait de les valoriser en tant que savoir, et je pense notamment, moi qui suis une ancienne prof de français, aux savoirs grammaticaux, le fait de les rendre plus explicites, que l'enseignant puisse aussi les évaluer en tant que tel, c'est prévu dans le pacte, qu'ils soient aussi évalués d'ailleurs dans les épreuves externes, c'est prévu également.
Et donc est-ce qu'on revient sur cette idée fondamentale que l'important c'était plus le savoir-faire que le savoir tout court? On revient là-dessus et on revient à l'idée, je veux dire, plus classique de l'école, que le savoir redevient premier.
À mon sens, on revient à un équilibre, justement. Et ce n'est pas l'un avant l'autre, mais bien sûr, il faut maîtriser le savoir pour pouvoir le mobiliser et atteindre la compétence. Donc, on a ces deux parties, finalement, qui sont là et qui sont bien présentes dans le pacte. Ça répond aussi, je pense, à une attente des enseignants qui, parfois, quand ils voyaient un programme, se disaient « Ok, je vois la compétence à atteindre, mais quel savoir est-ce que je mets derrière, moi ? Quel contenu et quel savoir en tant que tel, pour lui-même ? » Et je vous le répète, le fait qu'on puisse les évaluer aussi dans les épreuves externes, et c'est précisé dans le pacte, c'est pour moi vraiment une plus-value et je pense que ça répondra à ce que les enseignants attendent aussi sur le terrain.
Alors le latin, on en a parlé tout à l'heure avec quelques formules. Obligatoire dans tout le tronc commun, jusqu'à 15 ans, c'est ça l'idée ?
Ce qui est aujourd'hui écrit, c'est que les langues anciennes ont une importance à la fois...
Latin et grec, donc.
Voilà, à la fois pour la culture latine, mais aussi et surtout, et j'insiste, sur le fait que ça permet une analyse grammaticale et que le latin permet un soutien important au français. Ça permet d'avoir une rigueur de pensée et il est prévu, bien sûr, dans le pacte, de conserver le latin. Alors, sur quel mode, avec quel nombre d'heures, ça, c'est toujours en construction. Pour une raison très simple aussi, c'est qu'il y a un groupe de travail qui, parallèlement aux acteurs du pacte, continue. C'est le groupe de travail des savoirs et des compétences, présidé par Marc Romainville. Lui rend son rapport sur le tronc commun et sur l'organisation du tronc commun fin février. Ouais. Ça, c'est important. C'est aussi une étape importante.
Est-ce que les acteurs du pacte d'excellence ont évoqué ce qui est considéré aussi par beaucoup comme le talon d'Achille de l'école francophone, c'est cette compétition permanente entre les réseaux, entre les écoles, qui met pas mal d'élèves au tapis en passant. Est-ce qu'on va revenir sur l'organisation même de l'enseignement francophone, qui nous coûte cher en plus ?
Notre enseignement est bien financé. Et c'est vrai, les acteurs du pacte d'ailleurs le reconnaissent. Ils ont chiffré un pacte à 200 millions, enfin entre 200 et 300 millions,
on aura les chiffres.
Oui, mais avec des effets retours et finalement avec un équilibre budgétaire à terme. Et c'était une des volontés, c'était d'être responsable par rapport au budget. Par contre, les réseaux sont renforcés, ils ont été acteurs du pacte, ils sont renforcés, mais il y a aussi un engagement de leur part à travailler davantage en inter-réseau pour limiter le marché scolaire.
Mais il n'y a pas des réseaux.
Non.
Ouais.
Non,
certains l'ont rêvé, ce ne sera pas le cas.
Ce ne sera pas le cas, et je pense que chaque réseau a le droit à sa spécificité. Il y a une plus-value à partir du moment où c'est bien organisé et où on évite justement les concurrences stériles entre réseaux. Et je pense à des cas très concrets qui sont précisés dans le pacte. Les rationalisations d'options. On doit travailler par bassin de vie et pas par école, réseau par réseau. Et si à un moment donné, on choisit d'enlever une option dans telle école parce qu'à 3 km, il y a la même option ailleurs, ça doit être des décisions prises en interréseau. Et c'est le cas grâce au bassin aujourd'hui.
Oui. Alors, ça va coûter combien ? Parce que vous aviez dit, vous avez cheaté le chiffre, 200, 250 millions. Vous aviez dit à un moment donné que ça ne devait pas coûter d'argent. Votre communication n'a pas été tellement bien comprise à ce moment-là.
On a demandé, mais c'est très clair, on a demandé aux acteurs du pacte de travailler dans un équilibre budgétaire. Ils ont trouvé cet équilibre budgétaire, mais à un certain terme, c'est clair que...
Donc pour au début, il va falloir injecter de l'argent.
Il va falloir injecter de l'argent, mais ils ont trouvé, et je les en remercie, mais je vais découvrir aussi à la conférence de presse aujourd'hui, lors de leur présentation, les mécanismes qu'ils ont imaginés pour avoir ces effets retours et ces effets, finalement, d'optimisation à l'intérieur même du budget. Ils vont nous les expliquer tout à l'heure et je suis persuadée qu'ils ont travaillé en étant responsables et responsables aussi pour les générations futures.
C'était Marie-Martine Schins, ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles.